Nous commencerons par l'Épître aux Romains, au chapitre 6, Romains 6. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Continuerons par l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 20, Éphésiens 4, verset 20. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruits en lui, selon que la vérité soit en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Et on terminera par l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez, vous aussi, à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous.
Nous connaissons bien ces deux épîtres qui nous parlent de la position chrétienne. La position que Dieu nous a donnée en Christ et avec Christ. C'est d'abord l'Épître aux Éphésiens et c'est deuxièmement l'Épître aux Romains. Et nous avons lu des passages de ces deux épîtres. Le point de départ dans ces deux épîtres est pourtant différent. L'Épître aux Éphésiens nous montre l'homme comme mort. Par contre, l'Épître aux Romains nous présente l'homme vivant dans le péché. Le conseil de Dieu présente, comme il nous est présenté dans l'Épître aux Éphésiens, est selon la richesse de la grâce et de la gloire de Dieu. Dieu répond à ce qui est dans le cœur de Dieu et il nous comble de ses bienfaits et de ses bénédictions. Nous sommes bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Par contre, dans l'Épître aux Romains, Dieu nous donne selon nos besoins comme pécheurs. Le point de départ, c'est l'état de l'homme qui est un pécheur et Dieu répond à nos besoins dans l'épître aux Romains. La première partie dans l'épître aux Romains, chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, verset 11, nous présente le premier problème. Le premier problème de l'homme naturel. Il a commis des péchés, des transgressions, des fautes. La deuxième partie dans cet épître, chapitre 5, verset 12 jusqu'à la fin du chapitre 8, nous présente un deuxième problème. C'est ce que nous sommes des pécheurs. D'abord, nous avons commis des péchés, des fautes, des transgressions. Mais deuxièmement, il y a ce problème que nous sommes des pécheurs. Nous avons une nature, la vieille nature, le péché au-dedans de nous, comme une machine qui ne produit que des péchés. C'est comme un arbre et les fruits. L'arbre, c'est la vieille nature, le péché ou la chair, et les fruits, ce sont des transgressions, des péchés que nous avons tous commis. Mais cet épître, heureusement, ne présente pas seulement le problème, mais aussi la solution. Quelle est la solution ? La solution est d'abord le Seigneur Jésus, son œuvre à la croix et sa mort. C'est la solution. La mort du Seigneur Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Mais deuxièmement, Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné une nouvelle vie. Et cela, nous appelons la nouvelle nature. Ces deux expressions, la vieille nature et la nouvelle nature, ne se trouvent pas dans la Bible. Ce sont des expressions que nous utilisons. Mais la vieille nature, ça signifie le péché au-dedans de nous, ou la chair, la vieille nature. Et la nouvelle nature correspond à ce que le Nouveau Testament appelle la nouvelle vie, l'esprit. La vie que nous avons reçue. Alors, ces deux problèmes et ces deux solutions. Que fait Dieu avec les transgressions que nous avons commises ? Il les pardonne, n'est-ce pas ? Nous connaissons le pardon. Nous sommes justifiés. Voilà la réponse de Dieu quant à ce problème des fruits, des péchés. Nous sommes justifiés. Justifiés sur le principe de la foi, chapitre 5, verset 1, et nous avons paix avec Dieu. Le deuxième problème, la vieille nature, le péché, quelle est la solution de Dieu? Est-ce qu'on peut pardonner une nature? Est-ce que Dieu a pardonné la vieille nature, le péché, cette machine au-dedans de nous? Ce n'est pas une solution. On ne peut pas pardonner une nature. Quelle est la réponse de Dieu? Quelle est la solution? La mort. C'est la mort. Pas la mort du péché, mais nous sommes morts. Christ est mort pour nous et nous sommes identifiés avec Christ. C'est exactement ce que nous avons trouvé ou ce que nous trouvons dans le passage que nous avons lu dans l'Épître aux Romains. Nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort. Nous sommes morts Et parce que, et nous allons voir les détails, ce que cela signifie, et parce que nous sommes morts, nous pouvons maintenant vivre selon la nouvelle nature que nous avons reçue. Le grand sujet de ce passage dans l'Épître aux Romains, c'est l'affranchissement. Vivre en liberté, ne pas vivre selon la vieille nature, mais vivre selon la nouvelle nature, ou vivre en nouveauté de vie, l'expression que nous avons trouvée dans ce passage. C'est l'œuvre de Dieu en Christ et les résultats pour nous. L'apôtre commence, « Que dirons-nous ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Qu'ainsi n'advienne ? Nous qui sommes morts au péché. » Je répète, ce n'est pas le péché, la vieille nature qui est mort, mais ce sont nous qui sommes morts, et c'est pourquoi nous ne sommes plus obligés de pécher, mais nous pouvons vivre selon la nouvelle nature que nous avons reçue par grâce.
Deux pensées par rapport au tout début de l'épître, du chapitre 6 de l'Épître aux Romains. L'apôtre pose la question au verset 3, « Ignorez-vous ? Ignorez-vous donc ?» Et peut-être que cette réalité de notre mort avec Christ, elle a tendance à être ignorée dans la pratique. Et c'est une chose qu'il faut enseigner dans les assemblées. J'ai 33 ans, et on a étudié ça récemment dans le rassemblement dans lequel je me trouve, mais avant ça, jamais je n'avais entendu parler dans l'Assemblée de notre mort avec Christ. Et il est bon que ces choses soient enseignées, parce que sinon elles sont ignorées. Et déjà, si on ne sait pas ces choses par ce que la parole nous enseigne, par notre intelligence d'abord, on ne peut pas les vivre. La deuxième pensée, verset 2 au milieu, « Nous qui sommes morts au péché, nous sommes. » C'est une affirmation, et il n'y a pas d'autre moyen de se saisir de cette affirmation que de le croire. Ce n'est pas quelque chose qu'on est amené à ressentir, c'est pas une chose où l'homme a à faire quoi que ce soit. Dieu nous le dit, vous êtes morts au péché. Et c'est donc une chose qu'il nous faut croire pour pouvoir pleinement en jouir.
Notre vieille nature est considérée comme morte, comme on vient de le dire, parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour cela. Mais dans les faits, et l'Épître aux Colossiens est là pour nous le montrer, c'est que la machine, comme notre frère l'a exprimé tout à l'heure, est là et est génératrice de ses envies de pouvoir pécher. Dans la nature, on peut prendre l'exemple des arbres greffés. Le jour de notre conversion, c'est comme si l'arbre qui est franc, c'est le noyau qui a été mis dans la terre et lorsqu'il pousse, il ne fait que des fruits qui sont des fruits sauvages. Le jour de notre conversion, nous avons dit au Seigneur, « Je suis mort avec toi ». Et c'est un peu Romains 6, où nous sommes identifiés avec la mort du Seigneur et le Seigneur nous a donné cette vie nouvelle pour pouvoir vivre dans ce monde, le représenter et avoir cette relation avec lui. Quand on prend un arbre greffé, on a donc coupé la tête de l'arbre et on est allé chercher un greffon sur un arbre qui avait des bons fruits. On l'a mis en haut de la tige. Et ce que fait la nature, c'est que la sève monte et elle va tout de suite alimenter ce greffon qui va donner des bons fruits. Mais si on ne veille pas et si le cultivateur ne veille pas, la vieille nature va sortir. Oui, l'homme, dans sa nature, est considéré comme mort quant à l'œuvre du Seigneur, mais tant que nous sommes encore sur la terre, cette vieille nature a des velléités pour pousser. Et quand on regarde la nature comme elle nous l'enseigne, il faut mortifier nos membres qui sont dans la chair, même si le paragraphe n'a pas été lu, mais c'est le dernier verset de Romains, le paragraphe que nous avons lu, que nous sommes morts avec Christ et vivons à lui. Si nous tenons dans la mort la vieille nature, cette vieille nature, au bout d'un moment, et lorsqu'on le voit dans un verger, par exemple, eh bien, la puissance pour sortir de ce tronc qui est de l'ancienne nature a beaucoup moins d'énergie. Et la puissance de vie, c'est ce qui nous attire. Le problème de la religion, c'est de dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, et je dirais, c'est comme si on taillait un arbre. Ce que nous enseigne la parole et ce que la nature nous enseigne, c'est laissons vivre cette vie nouvelle, s'épanouir, et alors il y aura naturellement la sève qui va monter dans la partie haute de l'arbre et qui va produire ce fruit qui sera la gloire de Dieu. Parce que parfois des croyants, quand on lit de tels passages en disant « mais vous êtes mort », oui, c'est vrai, vous êtes mort. Et pourtant, certains pêchent, et tous d'ailleurs, nous pêchons. Et suivant comment les choses sont présentées, on peut tomber dans la culpabilité, alors que le Seigneur veut nous pardonner et veut nous rappeler que oui, ta vie nature est là, mais tiens-la dans la mort, elle est considérée comme morte.
Comme le disait Sébastien tout à l'heure, c'est vrai que peut-être moins qu'il y a 30 ans, où peut-être on n'insiste plus assez sur ces vérités. Je me rappelle, il y a un certain temps, on enseignait encore Romains 6 à 8. Peut-être aujourd'hui, c'est moins vrai. Et pourtant, c'est important pour la vie chrétienne, pour ceux qui ont reçu la vie, la nouvelle nature. On a cette expression... la nature divine, dans le deuxième épître de Pierre. Et il y a les faits, c'est ce qu'on a lu en Romains 6, au verset 6, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui. » C'est une chose faite. Il faut tenir cela pour vrai. Et puis, il y a la pratique. Et nous sommes morts en avec Christ, c'est aussi une chose faite, c'est quelque chose de réel. Mais après, il est dit, au verset 11, « Tenez-vous vous-même pour mort au péché. » Alors, vous êtes mort au péché, et puis « Tenez-vous ». On voit qu'il y a aussi une attitude, une dynamique à nous tenir pour mort au péché et pour vivant à Dieu. Il y a d'un côté ce que Dieu a fait, ce que le Seigneur Jésus a fait, notre position, et puis la mise en pratique. Et on le voit bien dans les deux passages où il est parlé du vieil homme, du nouvel homme, en Éphésiens et en Colossiens. Il y a d'un côté dépouiller les vieils hommes et puis revêtir le nouvel homme. On voit que à deux reprises, on a cela. Donc il y a aussi d'un côté cette connaissance de ce que Dieu a fait. Le vieil homme, il est mort, mais aussi il y a à nous tenir pour mort. Il y a à manifester être revêtu du nouvel homme. On l'a revêtu quand on a cru au Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit est venu en nous. On a revêtu le nouvel homme, mais c'est quelque chose aussi qui, dans la pratique, doit se renouveler régulièrement.
Peut-être une remarque en introduction qui est pour la joie de nos âmes et pour le rafraîchissement de nos cœurs. Quand nous sommes venus au Seigneur pour la première fois dans notre vie, nous avons réalisé que la parole de Dieu était non seulement la vérité en tant consignée dans un livre, mais la parole de Dieu a une puissance de vie et donne la vie éternelle, donne des certitudes pour l'âme, et donne une joie dans l'âme et un rassasiement qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et cela par la personne du Seigneur Jésus. Donc, en remarque introductive, c'est que tous ces passages sont donnés pour notre foi, pour la simple foi. Dieu a mis de côté une fois pour toutes l'accès à la compréhension de ses pensées à l'être humain autrement que seulement que par la foi. Et nous savons, il y a plusieurs aspects que nous aborderons certainement, nous savons que Il y a des... Comme lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous sommes venus au Seigneur Jésus, nous avons, la première chose que nous avons comprise, c'est que nous étions des pécheurs, nos actes produits étaient mauvais devant Dieu et nous étions coupables devant lui, méritant le jugement. Et je ne sais pas combien d'entre nous ont saisi à ce moment-là combien ils étaient profondément corrompus, mauvais, pervertis au-dedans d'eux-mêmes. Pour moi-même, ça a été seulement par après. Et c'est une chose merveilleuse de découvrir par la même simple foi dans la parole de Dieu, donc sans aucun raisonnement de notre part, mais l'acceptation de ce que Dieu dit, que l'on est effectivement délivré. Et c'est important de souligner cela parce que aujourd'hui, depuis la tendre enfance jusqu'au haut niveau d'études, ce que l'on enseigne à l'homme, à nos enfants, à nos jeunes, c'est tout à fait le contraire. C'est de se faire une opinion sur tout et de se faire autocritique sur tout ce que l'on entend et ce que l'on lit. Dieu a mis cela de côté. On ne peut pas connaître les pensées de Dieu, le cœur de Dieu, autrement que par la foi en ce qu'il dit. Et je crois qu'il est important d'insister d'autant plus sur cela que nous sommes dans un monde dit post-moderne et où le fait que la foi, la soumission à l'autorité divine étant rejetée, la place est toute libre pour que Satan entre dans les cœurs et fasse tous les ravages possibles et imaginables que nous voyons autour de nous. Cependant, nous avons une ressource merveilleuse qui reste et qui demeure. C'est de pouvoir simplement prendre la parole de Dieu comme elle est, nous réjouir devant Dieu en toute simplicité et de la même manière que nous avons saisi par la foi, c'est accompli, tes péchés sont pardonnés, de la même manière Dieu nous dit, vous êtes morts au péché. De la même manière Dieu nous dit, sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, peut-être on aura l'occasion de donner une explication claire et simple, mais aussi précise de la différence qu'il y a entre le vieil homme et la chair, qui est une différence nette. Mais ces choses, nous les saisissons par la foi, et c'est par la connaissance, ou par la réalisation, par la simple acceptation de la foi, que nous saurons que nous sommes délivrés, et sachant que nous sommes délivrés du péché, nous pourrons marcher ainsi, délivrés.
La question a été posée, quelle est la différence entre la vieille nature, la chair, et le vieux homme? Il y a une différence, bien sûr. La chair, c'est une nature. Pour cette raison, nous disons la vieille nature. Une nature ne peut pas être changé. Nous possédons la vieille nature en nous, la chair. C'est toujours là. Mais nous avons aussi reçu une nouvelle nature, la vie, la nouvelle vie, la vie éternelle, une nature. Par contre, ces expressions, le vieil homme, et l'homme nouveau, c'est un état. Ce n'est pas une nature, mais c'est un état. Nous étions dans le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme avant la conversion. C'est l'homme sous la domination du péché. L'homme qui est coupable devant Dieu. Et nous tous, nous étions dans cet état des pécheurs et sous la domination du péché, le vieil homme. Cet état n'existe plus pour nous. Maintenant, nous avons reçu ou nous sommes revêtus du nouvel homme. Nous sommes dans un nouveau état, avec les conséquences pratiques, bien sûr. Nous avons dépouillé le vieil homme, nous avons reçu et nous sommes bekleidet, nous sommes revêtus, merci, avec le nouvel homme. Et il faut que ça devienne visible maintenant dans la vie quotidienne. Et les deux passages dans l'Épître aux Éphésiens et aux Colossiens, où nous avons trouvé ces expressions « vieil homme » et « le nouvel homme », parlent aussi de la pratique de la vie quotidienne du chrétien. Alors je répète, la nature est un état. C'est la grande différence entre le péché, la chair, la vieille nature et le nouvel homme et l'ancien homme. Nature et état. Peut-être ça nous aide à discerner les différences entre ces deux expressions.
Ne peut-on pas ajouter dans la comparaison le rôle de l'esprit ? En Galates 5, au verset 16, « Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. » L'esprit nous est toujours placé en opposition avec la chair. Et si nous vivons par l'esprit, la chair, eh bien, elle n'agira plus en nous. Elle a toujours tendance à venir, mais c'est par l'esprit que nous avons les armes pour combattre contre la chair.
Il y a trois choses très importantes dans ce chapitre. La croix, la mort du Seigneur, la vie éternelle et le péché. Le problème de l'homme, c'est toujours il veut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Ça, c'est notre nature. Nous allons dans l'Église pour avoir une bénédiction. Mais ce n'est pas correct. Et ça pèse lourd. Et pour comprendre ce chapitre, il faut... C'est plus facile de comprendre ce chapitre si on est un chrétien né de nouveau. Par contre, celui qui lit ce chapitre, il peut comprendre... Ce n'est pas en faisant des bonnes choses, je vais avoir quelque chose, je peux avoir quelque chose. Non. Ce qui est important ici, Dieu a donné quelque chose. Il a donné le plus précieux, son Fils, le bien-aimé. Lui, il a donné, pas pour nous montrer comment on peut faire mieux, non, il nous a donné son Fils pour être crucifié à la croix du calvaire. Et cette mort, c'est pour ça, le verset 23 du chapitre 26, très important. Car les gages du péché, c'est la mort. Point. Tout ce que tu peux faire, ça ne sert à rien. Mais le don de grâce, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On ne voit pas la vie ici sur la terre. Il nous montre de suite la vie dans le ciel. C'est pour ça, c'est très important de comprendre. Oui, Dieu nous a donné un corps, il nous a créés, et c'est quelque chose de merveilleux. Nous le savons tous, si un bébé est né de nouveau, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a tout dans ce petit bébé. Tout. Dieu a créé ce petit bébé. Mais ce petit bébé, quand il grandit, quand il a un sentiment pour le mal, il doit se convertir. Il doit comprendre. Christ a été crucifié. C'est que par Christ, il va rentrer en ciel. Pas parce qu'il est joli, parce qu'il est bien, parce qu'il sait faire beaucoup de choses. Non. Seulement par la mort du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça, nous disons dans le chapitre 6, un peu plus loin, « Sachant, verset 6, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié par lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. » Là, nous devons tous réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que notre corps aime faire? Et pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Il ne peut plus le faire. Il doit arrêter parce que s'il est converti, si cette nouvelle vie est dans ton corps, tu peux servir Dieu. Tu peux faire les choses que Dieu a prévues pour toi. Et un alcoolique, quelqu'un qui prend les drogues, c'est important pour qu'on leur montre l'amour, pour qu'on leur parle, qu'on les aide. Mais ils font beaucoup de patience et aussi une certaine intelligence. D'abord, il doit comprendre que par Christ, mais aussi, il peut et il doit comprendre mort pour Christ, fini, arrêt. Et si on pense à ce que Dieu a créé, ce que Dieu a fait, mais il nous a donné son Fils unique, et il a marché sur cette terre, il a été crucifié pour nous. Cette mort, c'est la nouvelle vie. Et par cette vie, nous pouvons marcher à sa gloire. Et tout le reste, toutes les autres choses qui nous entourent, qui nous veulent nous montrer, tu dois faire cela, tu dois faire cela, non. C'est que par la mort de Christ que nous pouvons marcher à la gloire du Seigneur Jésus.
On souligne, tout à fait à juste raison, l'importance de la croix, de la mort de Christ, le fait que notre vieil homme a été crucifié avec lui, que Dieu nous avons été identifiés avec Christ dans la ressemblance de sa mort. Mais on a parlé de la joie que nous pouvons avoir aussi à considérer ces choses et nous voyons aussi que si l'apôtre nous parle de la mort, il nous parle aussi de la vie. S'il nous parle d'avoir été identifié avec Christ dans la ressemblance de sa mort, il dit que nous le serons à venir dans la ressemblance de sa résurrection, mais il nous dit aussi que nous avons que notre vie maintenant a un caractère nouveau, un but, un objet, un sens nouveau. Et ça, c'est important aussi pour nous, de réaliser cela. Et le verset 11 est... Et très de Romains 6, le verset 11 est vraiment nous parle parce qu'il nous dit de même, donc au verset 10 déjà, en ce qu'il est mort, en ce que Christ est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Et déjà au verset 6, le corps du péché, que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. Il y a cette mort avec Christ, cette identification avec lui dans sa mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons maintenant ce privilège de ne plus servir le péché, de ne plus être esclave du péché. Nous sommes celui qui n'est plus esclave, celui qui n'est plus débiteur du péché, celui qui n'est plus esclave du péché, il est libéré. Et cette mort, c'est le chemin de la liberté pour nous, de la vraie liberté, la liberté que Dieu veut nous donner. Et de ce fait, eh bien, non seulement nous sommes placés dans la liberté, mais nous avons maintenant ce nouveau but pour notre vie, cette nouvelle finalité de notre vie. Nous pouvons nous tenir pour morts au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Maintenant, le but, la finalité de notre vie, c'est que nous pouvons nous tenir vivant à Dieu. Nous ne sommes plus asservis au péché, aux convoitises, à la souillure, finalement à tout ce que nous avons hérité d'Adam pécheur. Le prototype du vieil homme, c'est Adam pécheur, rempli de convoitises et assujetti finalement au jugement. Assujetti d'abord à ses convoitises et ensuite, à la fin, passible du jugement. Eh bien, nous avons été délivrés de cela pour vivre à Dieu. Notre regard Le regard de notre âme, de notre esprit est maintenant tourné vers Dieu et non plus vers le péché. C'est le but que Dieu a poursuivi. Enfin, c'est l'un des buts de cette œuvre de Christ, de la mort de Christ, du fait que nous soyons identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort. Pourquoi ? Pour l'être aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Nous entrons, moralement, d'une certaine manière, nous entrons dans cette mort, mais pour en sortir avec cette vie de résurrection. Et autre chose, c'est que tout est lié à Christ. Nous avons cette doctrine, cet enseignement, et un enseignement qui est pour notre esprit renouvelé, pour notre entendement, comme il est dit dans la parole, mais n'oublions pas que toujours Dieu nous lie, toute la parole de Dieu lie tout l'enseignement que nous recevons à la personne de Christ. C'est en connaissant le Seigneur Jésus, c'est en entrant dans la connaissance du Seigneur Jésus que nous pouvons, que ces choses deviennent une réalité pour nous. Ici, nous le voyons, puisque en Romains 6, c'est déjà évident, puisqu'il nous parle de Christ. Et Christ remplit ces passages. Nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Nous savons que Christ a été ressuscité d'entre les morts, et donc que la mort ne règne plus sur lui, qu'il est vivant de cette vie de résurrection. Mais c'est encore bien plus frappant dans l'Épître aux Éphésiens, où il commence le passage que nous avons lu. « Vous n'avez pas ainsi appris le Christ. » Finalement, toute cette doctrine, elle se résume dans « apprendre le Christ ». Mais apprendre le Christ, c'est aussi entrer dans la connaissance de la pensée de Dieu, la connaissance de cette pensée de Dieu qui nous amène à comprendre que la vérité est en Jésus, que nous avons dépouillé le vieil homme, que nous pouvons avoir revêtu ce nouvel homme après avoir été renouvelé dans l'esprit de notre entendement, après avoir reçu cette vie nouvelle, cette intelligence renouvelée, cet entendement, cette nouvelle nature, cette vie nouvelle qui est en nous, la vie nouvelle qui est en nous, alors nous pouvons effectivement, pratiquement, concrètement réaliser que nous avons dépouillé, nous avons revêtu le nouvel homme qui est créé selon Dieu. Et dans l'Épître aux Colossiens, le passage que nous avons lu, il se termine par « Christ est tout et en tous ». Donc, d'une manière ou d'une autre, tout cet enseignement de la doctrine, c'est important de se rappeler qu'il y a une doctrine dans la parole de Dieu, un enseignement. Dieu nous enseigne. Il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Donc, il faut que Dieu nous enseigne cette vérité. Mais cet enseignement de la vérité, pour qu'il produise son fruit dans notre vie, il ne peut pas être séparé de la connaissance du Seigneur Jésus. Nous apprenons le Christ. Christ est tout et en tous. Et c'est ce qui fait le... On a dit tout à l'heure, un inconverti qui lit ces passages, il va peut-être comprendre qu'effectivement, il n'y a rien pour lui, parce qu'il n'y a rien qui vient de l'homme. Mais en fait, pour les comprendre, il faut que nous puissions être attachés au Seigneur Jésus, comprendre que la vérité est en Jésus et comprendre que tout cela, c'est une vérité pour nous en Christ, dans la connaissance de Christ, dans ce qui nous attache à Christ. La doctrine, c'est très important d'être clairement enseigné. Mais cet enseignement clair, il est toujours dans la parole de Dieu, il est toujours lié à la personne du Seigneur Jésus. Nous connaissons parce que nous connaissons le Seigneur, nous connaissons la vérité, parce que la vérité est en Jésus.
Pour appuyer ce que nous venons d'entendre, Jésus-Christ est notre salut, en personne. Alors souvent, nous sommes heureux et reconnaissants envers Dieu de cet évangile que nous avons reçu, cette bonne nouvelle, que nos péchés sont effacés. Mais dans cet évangile, il n'y a pas que cette nouvelle que nos péchés sont effacés, il y a cette délivrance. Et peut-être que nous ne nous rendons pas suffisamment compte ou pas assez souvent que nous sommes délivrés, que lire que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Il ne s'agit pas seulement du salut éternel de mon âme dans l'éternité, il s'agit de mon salut quotidien dans les circonstances d'aujourd'hui, d'être sauvé du danger de tomber dans les tentations qui me rendent misérable et malheureux, et qui aussi entachent mon témoignage à la gloire du Seigneur. Et donc ici, il est dit pour que nous ne servions plus le péché. C'est une bonne nouvelle. Il faut prendre l'Évangile dans sa totalité. Nous sommes désormais non plus seulement équipés pour faire des péchés, nous sommes maintenant équipés par Dieu même pour produire des actes justes devant Dieu. Quelle bonne nouvelle! Quelle source de joie pour Dieu lui-même de voir de ceux qui sont nés de nouveau, de ses enfants, qui sont maintenant des enfants de lumière, marcher en conformité avec cette nouvelle nature. Et ce nouvel homme, il est créé en nous par l'Esprit à l'image de Christ lui-même. On en revient toujours à Jésus-Christ.
On a, si on lit la biographie de Martin Luther, il était dans une abbaye, il dormait sur un simple lit. Il arrêtait de dormir sur ce simple lit. Il dormait sur le sol. Il castagnait son corps pour avoir Christ, pour avoir une connaissance de Dieu. Et pendant ce moment-là, il a lu Romains 6. Il a lu la lettre aux Romains et il a trouvé que ce n'est pas par mes œuvres, c'est que par Christ que je suis sauvé. Et maintenant, j'aimerais bien retourner sur le chapitre 4 en Éphésiens, c'est bien ça qu'on a lu, 4, 20, parce que c'est là que Luther a commencé, et toi et moi, nous tous, nous devons commencer Éphésiens 4, verset 20. « Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre. » Ça aussi, on voit en Romains 6. C'est notre marche sur la terre. Comment on l'a fait? Christ, mort, ressuscité au ciel, et nous, par sa mort, nous avons la vie éternelle, mais nous avons encore un devoir jour après jour, ici sur cette terre. Et c'est là que Éphésiens 4 commence. Instruit, appris le Christ. De nouveau, pas seulement crucifié, non. Quelles conséquences? Qu'est-ce qu'il a encore m'apporté? Qu'est-ce qu'il a encore m'a donné? Et c'est là, je pense, et c'est peut-être ça, notre frère parisien, là. Peut-être il nous manque des enseignements plus encore de Christ. Cet merveilleux homme qui a donné sa vie, mais qui est encore beaucoup plus pour nous. Christ a pris en Christ pour marcher à sa gloire sur cette terre.
On a lu dans Romains 5, au verset 11, « De même, vous aussi tenez-vous vous-même pour mort au péché. » Mais qu'est-ce que le péché, en fait? Dans le monde dans lequel nous sommes, le péché est une liste d'actes mauvais. Mais selon la parole, le péché, c'est plus que cela. C'est dès que le Seigneur Jésus n'est pas l'objet, dès que le Saint-Esprit n'est pas la puissance, nous sommes dans le péché. Il y a deux versets, notamment dans Romains 14, où il est dit « Tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. » Et il est dit ailleurs aussi que « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. » Et ça va loin. Quelquefois, on limite le péché à des choses mauvaises que les hommes réprouvent. Mais selon Dieu, c'est lorsque ma vieille nature est en action, même si elle a une belle forme, c'est aussi péché. Et ça va loin, voire même on peut avoir la reconnaissance des autres, mais si je ne l'ai pas fait avec le Seigneur, ben pour moi c'est péché, c'est une désobéissance, je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé.
J'étais un peu étonné quand j'ai vu votre invitation, quand j'ai vu le sujet, que le premier sujet, c'est maintenant les deux natures. Et quand j'ai vu maintenant, après, vu qu'est-ce que vous proposez comme passage à lire, je ne vois pas beaucoup qu'on parle des deux natures. On parle du nouvel homme et on parle du vieil homme. Et c'est ça. On parle de notre baptême, avec le baptême, nous avons confessé que notre vieil homme est mort. Et ainsi, tout ce qui est relié avec ce vieil homme est mort. Et c'est ça si nous nous occupons davantage de notre état, c'est-à-dire que maintenant nous avons revêtu Christ. C'est Christ qui doit se montrer dans notre vie. Et c'est ça ce que nous voyons dans ces passages. C'est cette nouvelle vie de résurrection qui habite en nous. Nous nous occupons facilement des choses vieilles. Nous nous occupons de notre faiblesse. Nous nous occupons des péchés que nous commettons. Mais nous oublions que nous sommes nouveaux, que nous avons cette nouvelle vie, que c'est Christ qui veut habiter en nous. Et c'est lui qui veut se montrer, se présenter par nous. Et notre faiblesse, c'est que nous ne nous occupons pas assez de l'état dans lequel nous sommes maintenant.
Nous avons entendu qu'il fallait dépouiller quelque chose. Et si je ne me revêtue pas, j'ai rien, je suis nu. Alors, c'est les deux choses, dépouiller et revêtir. Et nous sommes encouragés de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est le moi qui le fait, l'ego, mais c'est par la force que Dieu me donne de marcher en nouveauté de vie. J'aimerais bien proposer encore deux versets de 2 Corinthiens 5, comme nous avons juste entendu le verset 21 par Jean-Philippe. Ça sera le verset 15. Parlons de Christ, tous donc sont morts, et qu'il est mort, Christ, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Et le verset 17, « En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. » Si cette verset ne convient pas à le sujet que nous avons considéré ce matin, on peut me le dire, mais je pense que le pensée de la nouvelle création, c'est ce qu'il est nouvelle, c'est ce qu'il est fait nouveau, en contraste avec les choses qui sont vieilles. Et nous tous aimerons bien d'avoir quelque chose de nouveau. Nous connaissons ça très bien avec les enfants. Ils aiment bien d'avoir quelque chose de nouveau. Ça, c'est des anciens trucs qu'on veut plus. Et comme ceux qui sont ressuscités, qui sont morts et qui sont ressuscités avec Christ, nous aussi, nous aimerons bien faire. C'est ce qu'il est nouveau. Les bonnes choses, les jolies choses, et pas les choses qui sont vieilles. Ça ne convient pas à nous.
Des fois, on parle de la grâce et de la responsabilité. Et ces deux choses sont étroitement liées. En autre mot, la position chrétienne et la marche pratique sont deux choses qui sont liées ensemble. Il y a une relation, une liaison étroite entre ce que Dieu nous donne par grâce, notre position et la marche, la vie pratique du chrétien. Et cela est vu clairement en Colossiens 3, quand on voit le contexte des versets que nous venons de lire. Tout ce que Dieu nous donne est par grâce. Nous avons dépouillé le vieil homme. C'est un fait. Fait accompli. Le vieil homme a été crucifié, a été jugé, Romains 6. Nous avons dépouillé le vieil homme. Nous ne sommes plus dans le vieil homme. Nous ne sommes plus vus comme pécheurs coupables. Par contre, nous avons reçu, nous sommes revêtus du nouvel homme. C'est aussi un fait accompli. Dieu nous voit ainsi, par grâce, certainement. Mais maintenant, l'apôtre met en évidence qu'il y a des conséquences pratiques. Grâce et responsabilité. Nous avons dépouillé le vieil homme, mais mortifié donc vos membres qui sont sur la terre. C'est une exhortation pratique sur la base de notre position, dépouiller le vieil homme. Verset 8, « Renoncez-vous à toutes ces choses. » Une exhortation pratique. Il faut mettre la position en pratique. Nous avons dépouillé le vieil homme, position, c'est ce que Dieu a fait. Mais maintenant, mortifiez vos membres, renoncez-vous, dites non à ces choses. Et le même est valable pour le fait que nous avons revêtu le nouvel homme. Que dit verset 11 ? Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres. Une exhortation pratique sur la base de ce que Dieu a fait avec nous. Position et marche pratique sont étroitement liées ensemble. Nous ne pouvons pas marcher à la gloire de Dieu dans la vie quotidienne si nous n'avons pas compris notre position en Christ. Mais nous ne comprenons jamais notre position en Christ sans la mettre en pratique. Les deux choses, et ça c'est très clair ici dans ce passage, les deux choses sont liées étroitement ensemble. La position et la pratique. Il faut souligner les deux choses. Nous ne sommes pas permis de les... Non, nous pouvons les distinguer, mais pas séparer. Cette relation est là, et il faut tenir compte. D'abord, la position. Nous jouissons de notre position en Christ, n'est-ce pas? Nous jouissons de tout ce que nous avons reçu par grâce. Le salut, la position chrétienne. Mais quelle est la conséquence pratique? Marchons en nouveauté de vie. Marchons pour plaire à Dieu en toutes choses. Mortifiez vos membres. Renoncez ces choses qui caractérisent le vieil homme. Et revêtez-vous donc de ces choses qui caractérisent le nouvel homme. Une petite remarque. Le nouvel homme, ce n'est pas Christ en personne, n'est-ce pas? Le nouvel homme a été créé. Christ n'a jamais été créé. Le nouvel homme, ce n'est pas Christ en personne, mais c'est Christ vu en nous. C'est une différence, n'est-ce pas? Le nouvel homme, c'est Christ vu en nous. Et ces caractères que j'ai cités, que nous avons lus au verset 12, le Seigneur Jésus, il les a vécus. Il est le modèle. Douceur, miséricorde, humilité, longanimité, c'est tout ce que le Seigneur Jésus a fait et il est notre modèle. Alors, ce sont les caractères de Christ en nous. Ça, c'est le nouvel homme, pas Christ en personne.